بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On avait développé la dernière fois et la fois d'avant les qualités que le croyant doit essayer de mettre en application dans sa vie, que ce soit des qualités en rapport avec sa foi la plus profonde ou alors des a'ma, des actions qu'il doit essayer de mettre en application pour obtenir la clémence d'Allah. C'est un objectif majeur dans la vie du croyant, obtenir la rahmat d'Allah. Parce que celui qui a obtenu la clémence d'Allah, c'est une personne qui est sauvée. On est sauvé qu'à partir du moment où Allah Azza wa Jal a pitié de nous dans ce monde et dans l'au-delà. Concernant l'au-delà, notre prophète alayhi salatu wassalam, salam barakatuh, avait dit que personne n'accédera au paradis uniquement par ses bonnes œuvres. Personne n'accédera au paradis uniquement par ses bonnes œuvres, mais c'est par la clémence d'Allah Azza wa Jal. C'est par la clémence d'Allah que nous pouvons accéder au paradis. J'allais dire, nous postulons. Mais en fait, on postule qu'à partir du moment où on estime avoir des qualités. Mais aucun mu'min n'a les qualités requise pour prétendre entrer au Jannah. Et personne ne peut affirmer haut et fort que mon quota de péché est à zéro. Et de ce fait, il n'y a aucun risque que je sois amené vers le Jahannam, qu'Allah nous protège. Mais personne n'a cette garantie. C'est pour ça qu'à chaque fois, on répète « Ihdinas Sirat al-Mustaqim » afin qu'Allah nous garde de le droit chemin jusqu'à la mort. Donc, ikhwani fillah, on doit bien retenir que on a grandement besoin de la clémence d'Allah Azza wa Jal. Et ce serait totalement erroné que de se dire qu'en accomplissant de bonnes œuvres, je me protège, je suis immunisé contre les atteintes du diable, de Shaytan, et également par rapport à mon accomplissement des bonnes actions, mon ancienneté dans l'islam, mes habitudes à lire le Coran, à prier, mais je suis sûr que je suis dans le droit chemin et que rien ne m'arrivera dans l'au-delà. Ça, ce serait complètement erroné. Donc, on a grandement besoin. Ça doit être un dua journalier, régulier. 5 fois par jour, on doit demander à Allah Azza wa Jal d'avoir pitié, d'avoir la rahma, de faire preuve de clémence pour nous. Et donc, en plus de demander à Allah Azza wa Jal d'avoir pitié de nous, on doit réunir les actions qui nous garantissent la clémence d'Allah. Et donc on avait commencé par ce qui est le plus profond, développer le ihsan, avoir une pensée permanente d'Allah. Ça c'était le premier point, parce que celui qui pensera tout le temps à Allah, celui qui jamais ne laisse une seconde, une minute passer sans qu'il ne pense à son Seigneur, ben cette personne-là, il a une connexion permanente avec Allah Azza wa Jal. Et cette personne mérite la clémence d'Allah Azza wa Jal. Par opposition, et là c'est cohérent, par opposition à la personne qui est rafil, qui est dans l'insouciance, la personne qui, lorsqu'elle a le choix entre le péché, le fait de suivre ses instincts, ses passions, et de rester sur le droit chemin, à chaque fois la personne glisse vers le péché, que ce soit pour le regard, pour ce qu'on écoute, et ce qu'on va dire, et ainsi de suite. Comment voulez-vous que cette personne obtienne la clémence d'Allah? Comment est-ce qu'on peut espérer qu'Allah ait pitié de nous? Et ensuite, tout est dans les mains d'Allah, parce qu'Allah il est Arhamur Rahimin. La clémence d'Allah n'est pas comparable avec la bonté d'un père pour son fils. La clémence d'Allah est incomparable avec la bonté d'un fils pour son papa. La clémence d'Allah est incomparable avec l'amour qu'un mari peut avoir pour son épouse ou vice versa, et tout ce qu'il y a avec cet amour ou cette affection en termes de pitié, parce que chaque être humain a ses limites. Il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on tolère à un certain degré. Chaque être humain a ses limites et finit parfois par refuser l'autre. À force de vexer une personne, à force de faire des actions qui déplaisent à quelqu'un, à un moment donné, l'être humain montre ses limites et refuse. Ça peut être le divorce, ça peut être le licenciement, ça peut être des enfants qui fuguent, la protègent, ou qui fuguent dans le sens qu'ils ne veulent plus voir leurs parents. Donc il y a des fois où, et ce serait... C'est à tort, bien sûr. Je veux dire qu'il y a des fois où l'homme, l'être humain, l'insan, a des limites. Et au-delà de certaines certains agissements, certaines façons qui nous déplaisent chez notre prochain, à un moment donné, on ne supporte plus. Mais pour Allah Azza wa Jal, subhanallah, c'est radicalement différent. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ce qu'aucun homme n'est prêt à faire. Personne n'est prêt à pardonner les erreurs, les manquements de ses enfants, de son épouse, de son collègue de travail ou de son employé, peu importe, de façon continuelle. Quelqu'un qui répète les mêmes erreurs à chaque fois, à un moment donné, on finit par sévir, mettre en garde et parfois éloigner la personne, comme on a dit tout à l'heure. Mais Allah Azza wa Jal est tellement clément, donc on ne peut pas aller vers un discours où on va cadrer. La clémence d'Allah s'arrête à partir du moment où tu es dans tel péché, où tu cumules les péchés. Ce serait un péché de le dire. Ce serait un péché qu'une personne ose se prononcer et dire que quand quelqu'un persiste dans les erreurs, Allah n'aura pas de pitié de lui. A'oudhou billah. Il y a une personne qui avait dit ça, le prophète, c'était un hadith. Quelqu'un avait osé juger son prochain, un homme pieux avait osé juger son prochain par rapport à son vécu, par rapport à la persistance, le fisq dans les péchés. Il a dit que toi, Allah ne te pardonnera jamais. Et Allah était tellement mécontent de cette affirmation qu'Allah a pardonné ce pécheur endurci et Allah a sévi la personne qui a osé douter de sa clémence. Hada. Donc, comme on a dit, on doit essayer de mettre entre guillemets les chances de nos côtés, dire cumuler les bonnes œuvres, tant intérieures, les qualités spirituelles à développer, et celui qui peut le plus prétendre à la clémence d'Allah, c'est celui qui pense à Allah tout le temps. Et ça doit être une qualité propre aux musulmans. Il y a des fois où on entend des discours, des personnes parlent de périodes de piété, de ibada, et puis il y a la vie normale. Il n'y a pas de vie normale. Des fois on a des problématiques, en ce moment c'est un petit peu compliqué. On a par exemple le choix pour la salat au tarawih. On a parfois des jeunes qui postulent pour prier, pour officier, mais en termes de barbe, ça ne va pas. Et il y en a qui disent que mais en temps normal, d'accord, je me raccourcis la barbe, mais en je dis, attends, c'est quoi temps normal? C'est quoi temps normal? Ce temps normal, c'est le temps anormal. Bilax, on n'appelle pas ça. Dis plutôt, en temps anormal, je me raccourcis la barbe, et pour le ramadan, je garde pour pouvoir officier. Tu joues avec qui? D'accord? La relation avec Allah, Azza wa Jal, c'est une relation qui est permanente. D'ailleurs, une des qualités de foi à développer, c'est l'istiqama, oui ou non? Tout le temps, on parle d'istiqama après le ramadan. Mais l'istiqama, ce n'est pas uniquement istiqama dans l'éloignement des péchés ou de l'accomplissement des bonnes actions. C'est une istiqama de pensée également. Un muraqabatullah qui est âme, une pensée d'Allah qui est permanente. Le croyant qui, à un moment donné, raccroche et ne pense pas à son Seigneur, il y a problème. Le croyant, sur le plan spirituel, ne connaît pas de vacances. Il n'y a pas de vacances spirituelles. Vous pouvez être dans le mois de Ramadan à Mecca, à Medina. Vous pouvez être en vacances à New York, Las Vegas, ou vous, Las Vegas encore, à la limite ça ne va pas, où vous voulez, mais la pensée d'Allah Azza wa Jal habite ton cœur. Ce n'est pas que quand on est en vacances, les anges aussi, ils posent le qalam, ils n'écrivent plus, et qu'on a le droit à certains écarts de comportement, abadan wallah. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont une conception de la religion qui est basée sur des périodes. Périodes intenses et périodes où on se relâche. Quand on était jeune, on parlait de temps chaud, temps froid. Temps chaud, là, il est là, il vient à la mosquée, il prie le Qur'an, la barbe niveau nombril. Et temps froid, tout part, comme la barbe qui descend, les actions sont... Ça, ce n'est pas propre au mu'min. Le mu'min, c'est quelqu'un de cohérent. C'est quelqu'un qui a compris un juste milieu de sa vie. Il arrive à faire la part des choses entre le dunya et le akhira. Voilà tansa nasibaka. Voilà tansa nasibaka. Minat dunya ou fi dunya? Minat dunya. Il faut commencer à réviser. Hein. On démarre Sha'ban bientôt. Voilà tansa nasibaka minat dunya. Je travaille, j'ai un commerce, je fais ce que j'ai à faire, j'ai une vie de famille, mais j'arrive à faire la part des choses. Ce qui me plaît vraiment, c'est de voir le côté humain des sahaba. Des fois où on lit les récits des sahaba, on se dit, ouais, il a fait telle chose, mais c'est inaccessible. Alhamdulillah, vraiment, ce sont des modèles. Mais voyons parfois les récits des compagnons, on voit le côté humain des sahaba. Lorsque, alhamdulillah, tout le monde connaît le hadith, alhamdulillah. On avait parlé d'Ibn Kathir, qui a dit que, oh, prophète d'Allah, je suis devenu munafiq. Regardez son souci, fikr. Son angoisse, c'est le cas suivant. Il est avec le prophète, alayhi salatu wassalam, le degré de foi c'est autre chose. Elle dit, quand j'arrive chez moi, auprès de mon épouse et de mes enfants, je sens une baisse de foi. Et en commentaire, les muhadithis, les contemporains disent, voyez, ce qui préoccupe Hanbala, c'est pas que lorsqu'il quitte l'assemblée du Prophète sallam, il va faire des péchés. Il ne fait pas de péchés. C'est juste qu'il se rend compte que sa crainte d'Allah, sa pensée d'Allah Azza wa Jal n'a plus la même intensité que lorsqu'il était auprès du Prophète alayhi salatu wassalam. Et là, il revient vers le Prophète d'Allah angoissé. Il a peur d'être hypocrite. Il a peur pour son iman. Il a peur pour sa foi. Il craint le regard d'Allah sur lui. Est-ce qu'Allah le considère comme un hypocrite? Les mufassirines, les muhadithines, pardon, les contemporains disent, si seulement on avait 1% de ce fikr, au-delà de se soucier de la prière, mais au-delà des actions du quotidien, tout le temps, reconsidérer, se remettre en question et voir quelle est ma relation avec Allah. Parce que ce qui lui posait problème, c'était intérieur, ce n'était pas extérieur. Ce n'était pas quand il allait avec son épouse, ses enfants, il oubliait la prière et là, Allah. C'est que intérieurement, il sentait sa pensée dans cette connexion avec Allah, c'était moins intense que quand il était auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les muhadithins disent, si seulement le croyant avait en permanence ce souci, comment est ma relation avec Allah, qu'Allah nous accorde cette qualité. Donc, et en allant voir le Prophète, il rencontre un autre sahaba qui dit, moi aussi, je pense pareil. Et là, le Prophète dit, et puis il y a d'autres hadiths encore qui rejoignent, mahalan, mahala, chaque chose en son temps, allez-y doucement, qu'on ne peut pas garder ce niveau, le paroxysme, le maximum de foi en permanence. Parce que nous ne sommes pas des malaïka. Et donc, voyez, ce côté humain des sahaba, où il y a des fois où ils sentent que, voilà, ils se plaisent avec femmes et enfants et tout, mais après on voit le juste milieu. Le Uswatun Hasana, c'est qui sur le Prophète sallam? C'est sa famille raconte comment le Prophète sallam était proche de femmes et enfants, comment il plaisantait, il les aimait. Elle dit, mais lorsqu'il entendait le adhan, son visage devenait sévère. Il se rappelait d'Allah et il allait directement à la masjid. Ça, c'est le juste milieu. Dans toute chose, il y a un juste milieu. Dans le digne, il n'y a pas d'excès. Même on approche du mois béni. Il ne faut pas que durant le mois de Ramadan, on arrive à un excès. Enfin, alhamdoulilah, si on peut augmenter en termes de bonnes œuvres, il n'y a rien à dire. Mais il ne faut pas qu'on se donne bonne conscience par la suite. Genre, j'ai accompli mon quota de ibadah pour l'année. Astaghfirullah, qu'Allah pardonne ses paroles et que personne ne le pense. J'ai donné le droit d'Allah. Maintenant, les 11 mois, c'est le droit de mon travail, mon commerce, ainsi de suite. Ce serait un comportement totalement erroné. Ça va à l'encontre des principes de ikhlas. Que si tu agis comme ça, tu n'es pas mukhlis lillah. Parce que, dans mon train de vue, dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, innahu min ibadina al-mukhlasin. Et, certes, la sincérité, mais en fait, il a donné sa vie pour Allah. C'est pas uniquement ikhlas al-niyah, c'est ikhlas al-haya, toute ta vie. Tu le donnes sincèrement pour Allah. C'est un engagement du croyant pour Allah. Donc, celui qui s'engage pour Allah, celui qui veut avoir la qualité d'istiqama, de fermeté, il ne peut pas agir par période. Donc, durant le mois béni, on essaie d'avoir plus de qualité, mais ça doit rester quelque chose de... Il doit avoir un socle spirituel. Donc, celui qui a la crainte d'Allah, c'est celui qui a le plus de chances d'obtenir la clémence d'Allah. On a vu également, ittiba' al-Qur'an, suivre le Qur'an, le mettre en application, écouter le Qur'an avec tadabour, avec clairvoyance, en méditant sur le sens des versets. On a vu la dernière fois l'accomplissement de la prière et la zakat. On a vu qu'il n'y a rien qui rapproche un croyant d'Allah Azza wa Jal que les actions qui sont obligatoires. Si Allah a décrété que ce sont là les piliers, ça veut dire que celui qui se suffit de ces piliers, il les accomplit, mais parfaitement, comme il le faut, et que l'effet de ses actions imprègne sa vie, cette personne est gagnant. Quand le prophète avait vu un bédouin, on avait dit la dernière fois, il a dit au prophète d'Allah, quels sont les piliers? Il a dit que voilà les piliers. Et ce bédouin dit, ah Rasulallah, je jure par Allah que je ne fais rien de plus que ça, mais je les fais. Je les accomplis tous. Et là, quand il est parti, le prophète dit, vous voulez voir quelqu'un du paradis? Voyez cette personne. Mais en commentaire, les muhadithins disent que ce sahaba, même s'il avait le prophète quelques instants, quand il prie, c'est autre chose. Et cette prière est tellement bénéfique spirituellement que cela se ressent dans sa vie. C'est une prière qui t'accompagne en dehors de ta prière. La vraie prière, c'est celle qui reste avec toi même en dehors de ta prière. Que cette connexion avec Allah, elle reste permanente. Tanha anil fashai wal munkar. Ça t'empêche d'accomplir le péché et les choses mauvaises. On avait vu également la dernière fois l'istighfar. On avait dit, on avait fait lever les doigts, lever la main, qui est volonté, Inch'Allah, de faire au moins 70 ou 100 fois istighfar par jour. Parce que celui qui demande beaucoup istighfar, la tastaghfirun Allah la'allakum turhamun, celui qui demande beaucoup d'istighfar aura la pitié et la clémence d'Allah Azza wa Jal. On a vu également les doigts. Je ne sais pas si on avait fait les doigts. Demander, oui, oui, il me semble, on a vu que le croyant se doit de demander, il y a différentes formules, régulièrement demander doua Allah Azza wa Jal d'avoir pitié de nous. Développer la piété, la taqwa, ça rejoint le premier point, l'ihsan. Ce qu'on va voir aujourd'hui, une action ou deux actions, un point ou deux points, des actions cette fois-ci qui sont en rapport avec notre prochain. Parce que vous avez saisi l'ordre de comment on abordait les actions citées par ce savant. D'abord, c'était les actions intérieures, ensuite les actions extérieures. Prière, zakat, lecture du Coran, la façon d'écouter le Coran. Maintenant, les actions en rapport avec les autres qui nous permettent de bénéficier de la clémence d'Allah. Le prophète alayhi salatu wasalam nous rapporte dans un hadith qui est rapporté par Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, قال سمعتu النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة إلى آخر الحديث. حديث rapporté par Al-Bukhari. Dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام met en avant le profit spirituel qu'aura la personne qui rend visite à un malade. Rendre visite à un malade, ça a des récompenses sans le moindre doute, mais au-delà des récompenses, quand quelqu'un rend visite à une personne malade, cette personne obtient la clémence d'Allah. Donc ça, c'est une action extrêmement importante. Et les savants commentaires de ce hadith et d'autres hadiths qui vont de ce sens disent que ce genre de bonnes actions qui parfois sont déconsidérées, il y a des fois où si on a un créneau de libre, on se dit que prier ou lire le Coran, ça me sera plus profitable. Mais sans le moindre doute. Et puis, chaque action apporte quelque chose à la personne, chacun a un besoin différent. Mais rendre visite à un malade, ça doit être une action qui doit faire partie de notre quotidien. Ça, c'est très important. Et quand on dit rendre visite à un malade, c'est pas uniquement quand c'est un proche qui est malade. Quand on a un tawfiq de le faire, parce que aujourd'hui on a une gestion du temps qui est devenue tellement complexe et tellement égoïste que lorsqu'on n'est pas au travail, on estime qu'on doit donner le droit total, tout le temps qui reste, on donne soit à la famille, madame et les enfants, ou pour nous-mêmes. Plaisir personnel, détente, loisirs, sport ou autre chose. Et quand on dit, il y a une personne qui est malade au CHG, est-ce qu'on va rendre visite ? Il dit, oui, mais l'embouteillage, y aller, le temps de se garer, de revenir, ça prend 1h30, juste pour lui rendre visite, 10 minutes. Passe-lui mon salam. Ou alors, j'envoie WhatsApp. Ça va pas. C'est une action qui se perd. Et les seules personnes, qu'on va voir quand ils sont malades, ce sont nos proches. Si quelqu'un de la famille est malade, là on y va. Ça, c'est pas la réaction du croyant. Qu'Allah nous accepte. Il y a des fois où on parle, on dit des points que nous-mêmes, on n'est pas en application, mais qu'Allah ait pitié de nous, que notre intention change, Inch'Allah, à partir de cet instant, et qu'on retienne que rendre visite à un malade, ça, il y a d'autres fada'il, il y a d'autres ahadith qui vantent les mérites et les récompenses pour chaque pas, mais ce qui nous intéresse, c'est ce hadith de Bukhari, d'Adam al-Mufrad, que la personne obtient la clémence d'Allah Azza wa Jal. Et les savants, comme on avait dit en commentaire, disent que ces hadiths-là, c'est un rappel très important pour les cœurs qui sont morts, les cœurs qui ne pensent plus à Allah Azza wa Jal. Ce genre d'action, rendre visite à un malade, aller dans les hôpitaux ou aller au maqbara, au cimetière, ça fait partie des actions qui rappellent le akhira, qui rappellent les bienfaits. Quand on rend visite à un malade, tu te rends compte que tu es en bonne santé. Il y a des fois où on a l'impression que on est les plus éprouvés, que notre vie elle est misérable, qu'il n'y a pas pire que nous, et qu'on fait vraiment pitié, que voilà, on est lassé de notre rythme, de notre mode de vie, mais rendez juste visite à une personne qui souffre, qu'elle a une prothèse d'insuffisance rénale, et qui doit faire 3 heures de dialyse 2 fois par semaine, et on se rendra compte que, mashallah, ce qu'on te fait, je ne suis pas à plaindre. Rendez visite à une personne qui a un handicap physique qui l'empêche de marcher ou autre chose, on se rendra compte que même si j'ai parfois des problèmes de couple, j'ai parfois des problèmes avec les enfants, ou financièrement j'ai du mal à m'en sortir, mais alhamdoulilah, quand je veux descendre des escaliers, je veux aller à la masjid, je suis autonome, j'ai pas ce genre de problème, ça réveille les cœurs morts, ça réveille les cœurs qui ont oublié les bienfaits d'Allah, ce qu'on appelle des cœurs ingrats.
Il y en a qui disent vaut mieux avoir un cœur ingrat qu'un cœur gras par rapport aux artères, mais les deux c'est mauvais. Même le cœur ingrat, même si il n'y aura pas trop de graisse, mais le cœur ingrat c'est un cœur qui a oublié les ni'mas. Et l'homme ne peut pas oublier les ni'mas. Ça fait partie du rafla. L'insouciance, le rourour, non, l'illusion c'est autre chose. L'insouciance c'est un degré en dessous. Et l'insouciance c'est oublier Allah Azza wa Jal, ne pas faire le dhikrullah, ne pas faire les bonnes œuvres, ou se laisser glisser vers les péchés. Mais l'insouciance c'est également oublier les bienfaits qu'Allah nous accorde au quotidien. Et rendre visite à un malade, se rendre compte du bienfait de la siha, de la santé, c'est un rappel. D'où l'importance de ce genre d'action. Et aller au cimetière Maqbara, ça nous rappelle le akhira. Et des fois, on est tellement pris de le dunya. On est dans un cercle vicieux, travailler, gagner, obtenir plus, économiser, investir, avoir tel profit. On est dans un cycle et on a l'impression, on a l'illusion que ce cycle est infini, qu'on ne pourra le faire des années et des années. Et des fois, vous voyez une personne, un homme d'affaires, un businessman, un commerçant, il était actif et tout. Vous le revoyez après un voyage, des années après, mais il a arrêté son activité, il a terminé, il a la retraite. Et cette personne qui pensait peut-être vivre 150 ans, il se rend compte qu'on a une limite. Mais retourner vers Allah quand on n'a plus de force, quand on n'a plus rien, entre guillemets, à espérer de ce dunya, c'est moins noble, moins honorable que de consacrer sa vie à Allah quand on a la possibilité de consacrer sa vie au dunya. Et quel est le plus bel exemple dans les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal? Le jour de Qiyama, Sha'abun Nasha'a fi ta'atillah. Le jeune qui a grandi de l'obéissance d'Allah. Pourquoi? Cette personne-là se distingue de toutes les tranches d'âge parce que quand tu as 18 ans, quand tu as 20 ans, tu as 22 ans, toutes les portes du dunya sont ouvertes pour toi. Tout est ouvert. Depuis les portes du plaisir, des maladats, des passions, des boîtes de nuit, tout ce que vous voulez, tout est accessible. Et à ce moment-là, tu te fermes les portes du dunya et tu ouvres ton cœur à Allah Azza wa Jal. C'est un sacrifice énorme. Alors que tu as la possibilité d'avoir le haram. Ce sacrifice-là, c'est le plus aimé par Allah et cela mérite une place sous l'ombre de son trône. Donc, attendre qu'on a atteint un certain âge, on est très vieux pour enfin venir à la masjid, pour arrêter certaines choses, ce n'est pas le bon choix. Ce n'est pas le bon choix. Donc, pour revenir à cette action, rendre visite à un malade fait partie des actions qui nous permettent d'obtenir la clémence d'Allah, qu'Allah nous donne tawfiq, la possibilité de le mettre en application. On continue encore une action, puis on va s'arrêter pour ce soir. Enfin, encore deux. Al-istirathatu bi sifati ar-rahma. Un doua à retenir. On a un spécialiste des doua qui va nous l'envoyer par WhatsApp. كان النبي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Il invoquait Allah par deux de ses noms et il demandait برحمتك. Il fait tawassul par une des qualités d'Allah, sa clémence. Par ta clémence, je te demande de l'aide. Et ce hadith rapporté par Tirmidhi. Les savants disent, c'est une sunna que d'invoquer Allah Azza wa Jal par ces termes lorsqu'on a une difficulté. Parce que quand on parle de astarif, al-istiratha, c'est chercher de l'aide, al-rawth, chercher de l'aide. Et quand on cherche de l'aide, c'est qu'on a des problèmes, qu'on a des difficultés. Donc, c'est un doua mémorisé, on pourrait dire, des situations difficiles. Il y en a d'autres, hein? La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Et d'autres doua encore du Coran ou de la Sunna. Mais ce doua là nous intéresse parce qu'il y a la qualité de Rahma. Il y a la sifa, la qualité de Rahma d'Allah. Par ta clémence, ya Allah, je te demande ton aide. Donc c'est une doua à retenir. Le point suivant, c'est un point un peu long qu'on va peut-être couper en deux ou en trois. C'est wa min akbar al asbab allati tunalu biha rahmatullah rahmatul 'abd lil khalq. Une des meilleures actions qu'on peut développer pour obtenir la clémence d'Allah, c'est de développer la clémence, la compassion, la pitié, l'affection pour les autres, pour les créatures d'Allah. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam le dit, hadith Anas bin Malik, walladhi nafsi bi yadi لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains qu'Allah Azza wa Jal n'accorde sa clémence qu'aux personnes qui sont eux-mêmes cléments, compatissants, c'est-à-dire envers les autres. Et quand on dit les autres, je le dis envers le proche, ça aurait été un lapsus, envers les autres. Pas uniquement envers les gens qu'on connaît, pas uniquement envers nos proches, la famille. Umum an-nas. Et Sahaba a continué de dire au prophète d'Allah, demander l'explication. Et ça, c'était une qualité des Sahaba. Ils posaient des questions pour mieux orienter leur pratique. Pas des questions pour dire, prouve-moi que c'est vrai, là, wallah. Pas comme les contemporains, les islamologues qui veulent toujours trouver une réponse. Ou, hein. Non, c'était Ya Rasulallah. Kulluna yarhamu, prophète d'Allah, mais c'est quelque chose qui est propre à chaque croyant. Nous avons tous de la compassion pour les autres. Le prophète dit, laysa bi rahmati ahadikum sahiba. Il a dit, je ne vous parle pas de la compassion que vous avez pour votre compagnon ou pour votre prochain. Yarhamun nasa kaffa. Que tu aies de la compassion, de la pitié, de la clémence, de la considération pour tout le monde. Là, on a le hadith de base sur l'humanisme, al-insaniya, l'humanisme en islam. Le fait d'avoir de la muhabba, de la compassion, de la pitié pour l'ensemble des gens. Que tu connaisses la personne ou que tu ne connaisses pas la personne. Maintenant, sans le moindre doute, plus la personne est proche, par rapport au lien de sang, elle a plus de droits sur toi. Mais ça ne veut pas dire pour autant que celui qui n'a pas la foi, par exemple, ou celui qui ne partage pas tes convictions, on le considère comme, hein, même si on connaît que ses croyances sont erronées, toute personne mérite de la compassion parce qu'Allah a pitié de lui. On n'avait pas vu qu'Allah est Rahman Rahim et une clémence concerne l'ensemble de la création d'Allah. Et on verra par la suite, si Allah nous donne longue vie, inshallah, on verra parmi les qualités d'Allah, Allah est sabour. Sabour, ça vient de quelle racine? Sabr. Sabr, c'est la patience. Allah est patient, dans le sens, on verra s'il y a une traduction plus adaptée. Allah est patient avec ses créatures. Comment ça, Allah est patient avec ses créatures? Des personnes qui se prosternent devant autre qu'Allah, devant des pierres, devant le soleil, ou des personnes qui croient ou qui ne croient pas en Allah, athées, qui ne croient en rien. Ils parlent de dame nature ou autre chose. Malgré ça, Allah a pitié d'eux. Allah leur accorde le rizq, la subsistance. Allah leur accorde la santé. Allah leur accorde des enfants. Allah leur accorde un certain bonheur. Tout ça, c'est des manifestations de la clémence d'Allah pour l'ensemble de la création. Mais c'est un sur cent, un centième de la clémence d'Allah. Et les 99 autres cléments, c'est là-haut. Ce qui veut dire, et là il y a un principe que, ça c'est la conclusion de tous ces durous, at-takhalluqu bi akhlaqillah. Comme Allah agit avec ses créatures, on doit essayer nous aussi d'agir de cette façon. Comme Allah a pitié de l'ensemble de ses créatures, on doit avoir de la compassion pour l'ensemble de l'humanité. On fait encore un hadith ou deux de cette thématique. Autre hadith, le prophète alayhi salat wa sallam dit Ahlul Jannati Thalatha, trois catégories de personnes qui font partie des gens du paradis. Et parmi ceux-là, ce qui nous intéresse, Zu Sultanin Muqsitin Mutasaddiqin Muwaffiq. Le prophète sallam parle des qualités du dirigeant, donc ça aussi, le dirigeant juste qui sera sous l'ombre du trône d'Allah. Et on voulait citer quelques qualités, mais on risque d'aller vers un hors sujet, on est un peu limité dans le temps. Comment est-ce que les Khulafa Rashidin et les Sahaba, les Tabi'in, Atba'i Tabi'in, tous ceux qui ont eu des responsabilités, soit Amir, le Mu'minin, soit responsable de Wilaya, de différentes régions géographiques, comment ils avaient cette qualité propre, intrinsèque à chacune de ces personnes, c'était la compassion pour l'ensemble des gens. Et par la suite, on verra comment Umar ibn al-Khattab avait la pitié pour les gens, Ali ibn Abi Talib, Umar ibn Abd al-Aziz, ainsi de suite. Ce sont plus ou moins des histoires qui sont connues. L'autre point qui nous intéresse, c'est وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ. La personne qui a de la compassion, la personne qui a un cœur tendre et ouvert pour chaque croyant. C'est-à-dire que cette personne n'a pas, il ne développe pas de, c'est pas uniquement d'avoir un mauvais comportement, parce qu'il y a des fois on peut avoir une personne qui a un bon akhlaq, mais intérieurement il a le cœur dur, il n'a aucune pitié, aucune considération pour toi. S'il t'arrive de lui demander de l'aide, il va te faire comprendre que nafsi, nafsi. Même s'il va sourire, il va te faire salam, mais il n'a aucune compassion, aucune envie de khair, aucune envie de bien pour toi, ni aucune envie que tu sois épargné de difficultés. Et un des signes qu'on a pitié pour les gens, c'est faire doua pour eux. Ça, c'est un autre point. Quand on fait doua pour une personne en son absence, sans que la personne ne sache, un ange dit Amin walaka mithlu, en ce sens, mithlu dhalik. Allah t'accorde la même chose que tu as demandé pour ton frère. On veut que le doua soit accepté. Vous voulez baraka de votre commerce, demande doua pour ton concurrent, pour ton comment on peut dire, ton collègue ou l'autre personne qui fait le même métier, dit oh Allah, mets la baraka dans son commerce, dans sa subsistance. On veut avoir la santé, demande doua pour d'autres personnes qui sont malades. Et les anges vont dire Amin, wa laka mithlu dhalik. Amin, et Allah t'accorde la même chose. Le prophète dit que la personne qui demande à Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, où Allah pardonne les croyants et les croyantes, Allah lui accorde une hasanat pour chaque croyant qui existe et qui est vivant à cet instant. Hadith authentique. Voyez comment Allah est clément et comment Allah aime voir une personne qui se préoccupe, qui se fait du souci pour son prochain. Et voyez l'opposition, là on va se perdre mais c'est pas grave, quand dans un hadith le prophète dit min husni islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni, parmi les qualités du croyant délaisse, le fait de délaisser, de se désintéresser de ce qui ne le concerne pas. C'est pas de fouiner pourquoi un tel a des problèmes de couple, pourquoi est-ce que son garçon ne va plus le voir, pourquoi est-ce qu'il a fermé son magasin, pourquoi est-ce... ça te concerne pas, ne t'en mêle pas. Ça c'est une qualité propre au croyant, de ne pas se mêler de ce qui ne le concerne pas directement, sauf si tu peux apporter ton aide, tu peux faire un jouer un rôle de médiateur ou l'aider financièrement, oui, mais autrement ça ne te regarde pas. Donc ça c'est concernant la vie privée. Maintenant, concernant le khair, le bien qu'on peut apporter à une personne, on doit être présent, faire doua pour la personne. Tu sais qu'il est malade ou il a un problème, fais doua. Ne lui dis pas que tu sais, toi je fais doua pour toi tout le temps, il n'y a pas besoin de le dire. Fais doua avec sincérité et Allah t'accorde l'équivalent des doua que tu as demandé pour cette personne. C'est à dire ça c'est une qualité intrinsèque au croyant, penser à son prochain. Et quand on dit aider son prochain, si on peut financièrement, on le fait. Si on est limité, on fait ce qu'on peut. Mais il doit avoir une pensée permanente de le cœur pour notre frère en islam. Et pour l'ensemble des personnes que nous côtoyons, quand on connaît qu'une personne a un problème, mais on doit avoir une certaine tristesse pour la personne, demander doua pour la... Ne jamais être indifférent. On ne peut pas être... On vit dans une société où des personnes peuvent souffrir et, comme il dit en grec, ou trace ou chemin, ou trace droite. On ne se préoccupe pas des gens. Vous voyez le nombre d'SDF qu'il y a à La Réunion, un peu moins, mais quand vous voyez à Paris, en métropole, le nombre de sans domicile fixe et tout, alors que on a tendance à parler d'humanisme, de protection des animaux, on a d'écologie, moi j'aime bien, on veut sauver les arbres, on veut sauver les petits chiens, on veut sauver les ours noirs et blancs, les pandas, mais Roland ou Bertrand qui dort sous le pont, ça bon, c'est sa vie, il a raté, il n'a pas travaillé, et aucune pitié. Il y a une incohérence à tout ça, d'accord. Donc on ne peut pas adopter cette mentalité qui est extrêmement égoïste, égocentrique. On se replie sur soi-même et on oublie les autres. Parce que si on suit les règles de la société, on devient comme ça. On devient comme ça parce que chacun pense à soi, nafsi, nafsi, comment je termine la fin du mois, comment je paye mon CSG, comment je paye mes impôts, comment je m'en sors, comment je gère ma famille et comment je peux avoir un peu de temps libre, un peu de loisirs. Et également, vous voyez comment est-ce que les loisirs deviennent individuels. Tu regardes ton match, tu vas jouer ta PlayStation, tu vas tuer les réseaux sociaux qui te donnent l'illusion de connaître plein de gens, mais en fait, tu le connais, tu ne côtoies personne. C'est-à-dire, on reste concentré sur soi-même, on oublie les autres. Alors que dans le dîn, se préoccuper des problèmes du frère en islam, de notre prochain umouman, c'est quelque chose d'important. Et quand tu as de la pitié, de la compassion pour ton prochain, sache qu'à ce moment-là, Allah a de la compassion pour toi. Qu'est-ce qui fait que tu t'es déplacé pour aller rendre visite à une personne qui est malade, alors que c'est ni ton papa, ni tes enfants, ni ton épouse, ce n'est même pas quelqu'un de ta famille, c'est muhabba, tu l'as fait pour Allah, et parce que tu as pitié pour cette personne. Cette pitié, cette compassion, on doit absolument le retrouver et le faire habiter nos cœurs, afin que nos cœurs ne meurent pas. Nos cœurs ne doivent pas mourir en étant insouciants, on ne pense plus à Allah. Nos cœurs ne doivent pas mourir non plus en oubliant notre prochain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alameen. On continuera ce point-là, inshallah, dans deux semaines. Jazakumullah.